Partie 6, la partie des 10. Dans cette partie. Et voilà la partie des 10. Récréative et thématique, elle vous permet d'aborder sous un autre angle certaines connaissances. Révisez vos classiques avec les plus grands historiens, les peintres inspirés par la crucifixion, les chefs-d'œuvre fondamentaux de la littérature. Aiguisez votre esprit en jouant aux chiffres et aux lettres. À quoi correspondent les 9 muses, les 5 vertus théologales, les 15 vins, les 7 merveilles du monde? Pour le découvrir, franchissez hardiment les invitations au voyage que sont les 10 nombres d'or. Partez à la découverte des grandes inventions. Suivez l'évolution de l'opéra depuis sa naissance. Pour terminer, familiarisez-vous avec les fondements de notre monde en explorant les 10 notions essentielles du texte primordial des religions révélées, l'Ancien Testament. Dieu, l'homme, la femme, le temps, le pur et l'impur, vous saurez tout. Chapitre 21. 10 historiens célèbres. Dans ce chapitre, l'histoire cruelle et drôlatique du monde. Des hommes de tous horizons cherchent à comprendre l'homme. L'historien est un enquêteur au service de l'humanité. Le nom même de sa science, l'histoire, vient des historiae, les histoires ou l'enquête d'Hérodote, considéré comme le père fondateur de la discipline. Il se doit donc de collecter les indices, puis de les faire parler d'une extrémité à l'autre de la planète. La Chine des Han de Sematienne, la Rome triomphante de Polybe de Mégalopolis ou l'Ifriqiya d'Ibn Khaldoun avant la France occupée de Marc Bloch. Hérodote. Historien grec, Hérodote est né à Halicarnasse au 5e siècle avant Jésus-Christ, cité d'Asie mineure sur le territoire actuel de la Turquie. Il appartient à une famille aisée, ce qui lui permet de suivre une formation intellectuelle et d'entreprendre un périple qui le mène dans un premier temps en Égypte, en Syrie, dans l'Empire perse. De retour dans sa cité natale, il y séjourne peu, contraint par les soubresauts de la politique locale de se réfugier à Athènes, où il demeure de 446 à 443 avant Jésus-Christ. Il y fréquente l'élite athénienne, notamment le stratège Périclès, aristocrate de l'illustre famille des Alcméonides, maître et réformateur d'Athènes, et Vergète qui favorise la rénovation de l'acropole avec le Parthénon et le temple d'Athéna Niké qui signifie Athéna la victorieuse. Il se fixe ensuite en Grande Grèce, notre Italie méridionale, à Turiwa sur le golfe de Tarente, et se consacre à la rédaction de ses historiae, les histoires ou l'enquête, jusqu'à sa mort en 420 avant Jésus-Christ. L'ouvrage est composé en 9 livres, chacun dédié à une muse, précédé d'un prologue consacré au rapport conflictuel entre Grèce et Asie mineure, matérialisé par des enlèvements dont celui d'Hélène de Sparte par Paris, provoquant la guerre de Troie. Ce prologue est destiné à aider à percevoir les enjeux développés ensuite, à savoir la montée en puissance de l'Empire perse dans les 4 premiers livres, puis l'affrontement avec la Grèce, la première guerre médique des livres 5 et 6, puis la seconde guerre médique des livres 7, 8 et 9. Hérodote meurt avant d'avoir pu mener son projet à terme, qui demeure inachevé. Dès l'Antiquité, Hérodote est sacré père de l'histoire par Cicéron. Il est le premier à présenter les événements vécus par les hommes comme résultant de leur choix, de l'expression de leur volonté et ambition, et non comme le fruit du choix des dieux mis en œuvre par les hommes. Esprit curieux, il présente l'ensemble des aspects d'un pays lorsqu'il l'aborde, ses mœurs, ses institutions, sa vie politique, sa religion, sa vie quotidienne, tout l'intéresse. Tout est utile pour mettre à contribution aussi bien l'histoire que la géographie ou l'ethnologie, rendant sa lecture extrêmement vivante aujourd'hui encore. Il est de ce fait fréquemment présenté comme l'ancêtre de tout reporter. Désireux de mettre au jour la vérité, même s'il admet volontiers récits et témoignages dont il ne peut vérifier l'exactitude, Hérodote est aussi novateur dans son souci d'impartialité. Il estime les actes des Grecs et ceux des Perses à leur aune, sans chercher à présenter les premiers, selon la conception classique de l'époque, comme les seuls civilisés, opposés aux seconds, barbares absolus. Rompant aussi avec les récits homériques et la tradition des Aèdes, Hérodote renonce à l'usage de la versification au profit d'un récit en prose. Ce choix démontre la claire volonté de décrire ce qui fut, de rechercher le vrai et non de charmer un auditoire. Toutefois, l'incorporation de légendes le différencie de son presque contemporain, Thucydide. Le premier a développé une méthode historique fondée avant tout sur une analyse et le tri rigoureux des éléments qui vont servir à rechercher comment exercer la gnome, c'est-à-dire la raison, intelligence appliquée à l'histoire. Thucydide. Si Hérodote est le père de l'histoire, son successeur Thucydide est le fondateur de la méthode historique à laquelle il donne les assises indispensables pour l'élever au rang de science. Athénien, il naît dans la deuxième moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ au sein du groupe favorisé des aristocrates fortunés, notamment grâce à l'exploitation de mines d'or en Thrace. En dépit de cet avantage, Thucydide ne fait pas une brillante carrière politique à Athènes. La charge la plus élevée qui lui est confiée est celle de stratège chargé du commandement d'une flotte en 424 avant Jésus-Christ. L'épisode prend place pendant la guerre du Péloponnèse qui oppose Athènes et les cités soumises à son hégémonie de la Ligue de Délos à Sparte, puissance victorieuse à la fin entre 431 et 404 avant Jésus-Christ. Maladresse tactique, erreur d'appréciation des priorités, Thucydide se porte au secours d'un autre stratège et permet ainsi aux Spartiates de s'emparer d'Amphipolis, ville du nord de la Macédoine. Pour les Athéniens, c'est un acte proche de la trahison. Thucydide est contraint de s'exiler. C'est pendant ce long exil, destiné à durer 20 ans, qu'il parcourt la Grèce, accumule les matériaux du conflit se déroulant sous ses yeux qui sont plus tard ordonnés en son histoire de la guerre du Péloponnèse. En 404 avant Jésus-Christ, un décret d'amnistie lui permet de regagner sa patrie. Il consacre alors son existence à la rédaction de son ouvrage, dont certaines parties étaient peut-être déjà esquissées. Il meurt vers 400 avant Jésus-Christ, peut-être dans des circonstances brutales en raison des troubles civiques provoqués par la tyrannie des Trente qui durent entre 404 et 403 avant Jésus-Christ, puis de leur chute. Conventionnellement divisé en 8 livres, l'histoire de la guerre du Péloponnèse retrace année après année le conflit opposant les Athéniens et leurs alliés aux Spartiates et leur soutien entre 431 et 404 avant Jésus-Christ. Toutefois, l'œuvre de Thucydide s'interrompt en l'an 408 avant Jésus-Christ. La volonté de l'auteur est claire, mettre en avant la grandeur de l'Athènes du siècle de Périclès à la tête d'un empire maritime, commercial et militaire, modèle de civilisation notamment par ses institutions démocratiques. Face à ce succès, la jalousie des Spartiates, maîtres d'un espace terrestre. Puis, après la mort de Périclès, frappé par la peste en 429 avant Jésus-Christ, la petitesse, l'étroitesse d'esprit et politique d'Athéniens qui sont incapables de perpétuer leur propre grandeur et sont tentés par les régimes oligarchiques en font des proies toutes désignées des ambitions conquérantes de Sparte. Pour écrire l'histoire, Thucydide pose les fondements d'une méthode au début du livre 1. Toutes les sources sont vérifiées, comparées, recoupé afin de ne conserver que celles jugées les plus fiables. L'historien s'affirme par l'exercice de la gnome, la raison-intelligence appliquée à l'étude des faits, dont il est à la fois acteur, spectateur et analyste. L'histoire est le fruit des actions des hommes, de leurs choix, de la projection de leurs idéaux politiques, fût-ce comme lors de la guerre du Péloponnèse au prix d'une lutte fratricide entre cités grecques. Thucydide comprend bien l'enjeu du conflit. Au-delà du prestige, les belligérants s'opposent sur une conception du monde. La méthode historique, par l'exercice de la gnome, conduit à la recherche de l'impartialité, de la vérité, car l'intelligence appliquée à la connaissance des choses permet de mettre à nu le mobile des actions humaines. Limité à son seul intérêt, le mobile mesquin conduit à l'échec. Transcendé par une exigence morale, il caractérise un Périclès tout entier dévoué à la grandeur de sa patrie athénienne, au-delà même des moyens employés pour y parvenir. Polybe. Historien grec de la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, Polybe est né à Mégalopolis en Arcadie, région montagneuse située au centre du Péloponnèse. Sa famille prestigieuse prend une part active à la conduite des opérations menées par la Ligue achéenne, union religieuse ou symmachie, et politique entre cités de la côte nord-est du Péloponnèse. Le jeune Polybe fait ses premières armes dans l'entourage du prestigieux Philopémène, stratège ou général de la Ligue achéenne, dont les autres vertus civiques et le courage lui valent le surnom élogieux de « dernier des Grecs ». L'expansion romaine en Méditerranée orientale bouleverse la vie de Polybe. Après la défaite infligée à Pydna en 168 par le général romain Polémile au roi de Macédoine Persée, Rome exige 1000 otages destinés à garantir la soumission des cités grecques. Polybe en est du nombre. Sa haute naissance lui vaut d'être accueilli dans la famille de Polémile lui-même, où il se lie d'amitié avec le second fils du général, Scipion Émilien. Polybe ne vit pas à Rome l'existence oisive d'un otage reclus dans une grande famille, mais se passionne pour l'histoire et les institutions romaines en lesquelles il voit les explications ultimes permettant de comprendre comment et pourquoi Rome est devenue la maîtresse incontestée du monde connu. Son exil lui laisse tout loisir d'approfondir la question, car il dure en effet 16 ans. Le retour en Grèce est d'ailleurs bref. Polybe s'empresse de revenir auprès de Scipion Émilien, vainqueur de Carthage en 146 avant Jésus-Christ, victoire qui met fin à la troisième guerre punique de 149 à 146 avant Jésus-Christ, et vaut à Scipion Émilien de mériter le surnom d'Africanus, c'est-à-dire l'Africain. L'historien grec joue ensuite un important rôle diplomatique. La Ligue achéenne se révolte contre Rome, elle est rapidement écrasée. Polybe, de par ses liens avec les deux belligérants, participe activement aux négociations de paix et y démontre une belle habileté. Pendant quelques années encore, il partage la vie militaire de son ami Scipion Émilien, puis il décide de se consacrer à la rédaction de Historiae, les histoires ou histoire universelle. Le propos est d'expliquer pourquoi, sur la période comprise entre 220 avant Jésus-Christ et 146 avant Jésus-Christ, Rome est parvenue à s'imposer à tant de nations diverses. Riche de 40 livres, dont 5 nous sont parvenus, l'œuvre est rédigée en langue grecque commune, la koiné, et non dans un dialecte propre à une région particulière. Il faut y voir le souci de l'auteur de s'adresser à la Grèce entière, mais aussi à l'élite romaine cultivée. Polybe refuse une histoire où les dieux dictent aux hommes leurs faits et gestes. Par les portraits des grands hommes, l'analyse des institutions, des événements militaires dans un style simple et clair, il cherche à dégager les causes des évolutions historiques afin d'en tirer un enseignement pour l'avenir. Se Matsien. Historien chinois, Se Matsien ou Sima Xian, qui vécut à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, est né dans une famille au service de l'empereur Wudi de la dynastie Han. C'est donc dans le cadre de la cour qu'il rédige sa somme, le Shiji, ou Mémoires historiques, œuvre gigantesque dont le but est de compiler les 2000 ans d'histoire de la Chine, des origines jusqu'au règne de l'empereur Wudi. Il ne faut pas voir dans le Shiji un simple recueil d'annales relatant les événements survenus au cours des règnes des différents souverains. C'est bien plus que cela. À la fois par l'ampleur de la tâche entreprise avec 130 chapitres et par la variété des thèmes abordés. De la philosophie à la musique, des rites aux fêtes et traditions, des biographies. Considéré comme le fondateur de l'historiographie chinoise, Se Matsien connaît une vie agitée en dépit du succès de son œuvre qui inspire durant des siècles les autres historiens chinois. En effet, il est accusé de complot contre l'empereur pour avoir soutenu la cause d'un militaire disgracié par le prince. Condamné à mort, l'historien bénéficie d'une clémence toute relative. Sa peine est commuée en castration suivie d'exil. L'empereur Wudi y met fin en le rappelant à la cour pour en faire son secrétaire privé. Tite Live. Nous savons peu de la biographie de l'historien romain le plus célèbre, Tite Live. Né à Padoue en 59 avant Jésus-Christ, il vient à Rome suivre les études de rhétorique indispensables à la formation de tout jeune homme de bonne famille. Toutefois, il ne s'intéresse pas à la voie habituelle pour faire carrière qu'est l'exercice du droit, mais aux lettres et en particulier à l'histoire. Contemporain de l'empereur Auguste, Tite Live entretient avec le souverain et son régime des rapports ambigus. Le prince apprécie l'œuvre de l'historien, mais se défie de son goût pour la République. Tite Live rend grâce à Auguste d'avoir restauré la grandeur de Rome, mais demeure nostalgique des institutions républicaines. De retour à Padoue après la mort d'Auguste, Tite Live rédige une œuvre gigantesque. Ab Urbe Condita Libri ou Histoire de Rome depuis sa date de fondation mythique en 754 avant Jésus-Christ, ainsi que l'indique son titre Ab Urbe Condita qui signifie « Depuis la fondation de la ville par excellence, Rome ». Elle est prévue à l'origine pour se clore avec la mort d'Auguste en 14 après Jésus-Christ et pour comporter 150 livres. Elle en compte finalement 142 et s'achève avec la disparition de Drusus en 9 avant Jésus-Christ, car la mort empêche l'auteur de mener son projet à terme. Une grande partie de l'ouvrage s'est perdue avec le temps. Seuls sont conservés les 10 premiers livres ainsi que les livres 21 à 45 et divers fragments accessibles par les épitomées ou résumés, les perrochiae ou sommaires établis par des historiens plus tardifs. Reprenant une trame chère à ses devanciers grecs, Tite-Live alterne récits des hauts faits, prouesses militaires et politiques et discours prêtés aux grands hommes. La langue utilisée est d'une beauté classique proche de celle de Cicéron, le style est vivant et pittoresque. Même si Tite-Live est considéré comme le plus grand historien romain, son propos ne relève pas pour l'essentiel de l'histoire selon notre conception actuelle. Le but recherché n'est pas l'analyse des événements, mais la mise en avant de leur valeur morale. La grandeur de Rome repose sur sa capacité à maintenir les valeurs anciennes issues de la République, même si déjà pendant ce siècle d'Auguste, elles sont soit bien mal connues, soit devenues largement étrangères aux Romains eux-mêmes. L'historien, selon Tite-Live, doit édifier son auditoire, ses lecteurs, montrer la continuité entre la Rome républicaine et la Rome impériale par l'exaltation de la figure héroïque des grands hommes. Ainsi conçu, l'histoire est au service d'une idéologie, non une fin en soi. Ibn Khaldoun. La vie d'Ibn Khaldoun est un véritable roman. Il naît en 1332 à Tunis au sein d'une riche famille originaire d'Andalousie où ses aïeux remplissent déjà de hautes fonctions politiques. L'aisance financière, jointe à l'habitude du pouvoir, destine le jeune Ibn Khaldoun à une carrière importante. Il lui faut pour cela s'armer intellectuellement, étudier l'arabe littéraire afin de maîtriser le Coran et ses commentaires que sont les hadiths, ainsi que les fondements du droit et de la législation. Ce socle se prolonge par l'étude des mathématiques, de la philosophie. Toute sa vie, Ibn Khaldoun consacre une place importante au savoir, parachevant sa formation initiale au gré de ses pérégrinations, enseignant dans les prestigieuses universités Zitoun à Tunis et Al-Azhar au Caire. Le drame, mais aussi le matériau essentiel à la réalisation de son œuvre historique, réside dans l'instabilité politique récurrente de l'Afrique du Nord au XIVe siècle. Plusieurs dynasties concurrentes se disputent le territoire, les principales cités, les routes commerciales. Un prince n'est jamais assuré de conserver son trône. C'est dans ce monde instable qu'Ibn Khaldoun doit tenter de survivre et de garder ses fonctions auprès des différentes cours qu'il est amené à servir. Un jour scribe du sultan à Fès, l'autre diplomate envoyé à la cour de Pierre Ier de Castille par le prince de Grenade, il effectue plusieurs séjours en prison, dont l'un de près de 2 ans. L'élaboration de son œuvre requiert une période de calme. C'est réfugié auprès de tribus berbères pendant 3 années, entre 1374 et 1377, qu'il peut enfin rédiger son Al-Muqaddima, ou Introduction, prolégomène à l'histoire universelle. Cette dernière, le Kitab al-Ibar, ou Livre des Exemples, est entreprise à Tunis en 1378, poursuivie au Caire, où Ibn Khaldoun achève son existence entre 1384 et 1406. C'est d'ailleurs au service du souverain mamelouk du Caire qu'Ibn Khaldoun vit l'un des plus riches et dangereux moments de son existence, sa rencontre avec le redoutable Tamerlan à Damas, avec lequel il s'entretient 1 mois entier au début de l'an 1401. Il meurt en mars 1406 au Caire, alors qu'il se consacrait encore à ses activités de cadi, de juge et d'historien. Al-Muqaddima, les prolégomènes à l'histoire universelle ou introduction à l'histoire universelle, demeure l'œuvre fondamentale d'Ibn Khaldoun. Comme son titre l'indique, son propos est de préparer le lecteur à la somme présentée dans le Kitab al-Ibar ou le Livre des Exemples. Cependant, l'introduction devient plus fameuse que l'ouvrage supposé à l'origine devoir être principal. L'ambition réussie des thèmes abordés justifie cette célébrité. Ibn Khaldoun définit tout d'abord l'objet de la science historique, qui est pour l'essentiel l'analyse de la formation, de l'acmé et du déclin des empires. Il s'interroge ensuite sur le poids du milieu et l'influence du mode d'organisation sociale, prenant pour exemple la société nomade des Bédouins. Il recherche alors les racines du pouvoir politique, celles de l'autorité spirituelle et les conditions de leur exercice. L'ouvrage s'achève par des considérations économiques et sociales qui font de l'auteur l'un des lointains ancêtres de la sociologie. Outre l'Espagne musulmane et l'Égypte, la vie d'Ibn Khaldoun se déroule en Ifriqiya, une partie de l'Afrique du Nord actuelle, entre Algérie et Libye. C'est donc par le contact avec les villes et les modes d'organisation berbères que l'auteur forme peu à peu sa réflexion politique, religieuse, historique, sociologique, culturelle. Ibn Khaldoun oppose le mode de vie, La culture, la sociabilité naturelle, l'umran des citadins qui est l'umran hadari, à celle des nomades du désert qui est l'umran badawi. L'origine de la société repose sur une asabiyya, c'est-à-dire la cohésion de sang social, la solidarité du groupe particulièrement vigoureuse chez les berbères. Elle permet au groupe de se structurer, de s'étendre et d'affirmer son pouvoir jusqu'à la création d'un empire, le mulk. Puis, petit à petit, son affaiblissement par relâchement du lien social conduit à la chute. L'ensemble, selon Ibn Khaldoun, se déroule sur environ 3 générations. L'originalité d'Ibn Khaldoun parmi les historiens de son temps est de se lancer déjà dans une histoire totale, des modes de gouvernement, de la vie quotidienne, de la guerre et la paix, des sciences et techniques, les arts sont mis en rapport avec le climat, le milieu, le mode d'exploitation agricole, le commerce. Pieux musulman, il replace Dieu et la religion dans un rôle fondamental d'évolution des sociétés. La religion remplit une fonction d'ordre politique, à chaque forme de société, son type de comportement religieux. Le Kitab al-Ibar, livre des exemples ou livre des considérations sur l'histoire des Arabes, des Persans et des Berbères, auquel Ibn Khaldoun consacre les dernières années de sa vie au Caire, se présente en comparaison comme des annales plus classiques.